Écoute, Ben, je te l'annonce en exclusivité aujourd'hui. Arrêtez les communications à un moment donné, là. À chaque crise internationale.
Antoine Robitaille.
Il y en a un qui m'a écrit hier, il m'a dit j'étais nazi.
Antoine a toujours plein de choses à dire et c'est pour ça qu'on l'aime.
Philippe-Vincent Foisy.
Qui est à subir ces effets-là et subir ces conséquences-là pour nous aussi.
La rencontre.
Offenser qu'on ose poser une question et remettre en question
ces décisions. Écoute, de... j'en venais
plus. Rien dire, on peut plus rien
dire. On peut plus rien dire. Surtout dans la rencontre.
Robitaille, Foisy.
Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Alors, bonjour.
Sacrement, recule d'un pas, Antoine. T'es trop puissant.
Ah, j'étais trop fort. Ben, c'est parce que je suis trop pâle dans mon bureau aujourd'hui à la maison.
Opale moins, s'il te plaît.
Opale moins fort.
Je sais que Philippe-Vincent doit nous quitter dans quelques minutes. Là. Un mot sur la présence de Justin Trudeau qui témoigne, sauf erreur encore, à la commission Rouleau.
Oui, le contre-interrogatoire commence là, dans les dernières minutes. C'est super intéressant comme exercice.
Oui.
Parce qu'on va dans le fin détail là, de pourquoi et comment. Et il explique tout le raisonnement qui a été fait. Je vais vous raconter ça un peu rapidement. Loi sur les mesures d'urgence, donc, c'est dans la tête du gouvernement déjà depuis la COVID parce que on en a beaucoup parlé pendant la pandémie de la COVID. Alors, ils ont dépoussiéré cette loi-là pour l'étudier, mais ne l'ont pas utilisée. Et là, finalement, on arrive en pleine crise comme ça, des camions, des frontières barrées, des menaces à la violence avec les camions, avec les armes qu'on a vues, la possibilité qu'il puisse y avoir des policiers qui se fassent tuer, etc. Ça commence le 10, la première rencontre d'un comité d'urgence avec des fonctionnaires où on évoque la possibilité de se dire on a besoin d'outils supplémentaires ou d'outils meilleurs pour pouvoir la mettre en place. Est-ce qu'on est capable de le faire dans le processus actuel où on n'a pas le choix d'amener la loi? Le 13 février, on décide de finalement dire « OK, on va de l'avant » et c'est confirmé le 14 pour une mise en place le 15. C'est confirmé par la fonction publique, le greffier du conseil privé, donc le plus haut fonctionnaire au pays, donne un avis légal de la fonction publique comme quoi c'est utile et c'est nécessaire cette loi-là. Et M. Trudeau a un peu essayé d'expliquer pourquoi le SCRS, dans laquelle on a la définition de menace à la sécurité nationale, pourquoi si eux, le seuil n'était pas atteint pour eux, pourquoi le seuil pour la même loi avec la même définition pour le gouvernement était atteint? Là, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais lui, il dit que selon le gouvernement et selon leur perspective et leur perception, il y avait menace à la sécurité des gens parce qu'il y avait une possibilité de violence politique et pas juste à Ottawa. Il dit aussi qu'il y avait des plans, oui, mais souvent, c'était des mauvais plans qui n'auraient pas permis de vraiment libérer tant le centre-ville que les autres frontières. Et que même si on commençait à libérer les frontières, comme c'était du monde en camion, il y avait toujours la possibilité qu'ils reviennent ailleurs. Alors, on a quand même un travail qui a été plus profond. Là. Ça n'a pas été écrit sur le bord d'un coin de bureau puis qu'on a mis ça en place de façon un peu anodine, disons.
Oui, un ordre chronologique des événements, finalement.
Oui, mais avec les raisons. Et ça, je pense que c'est le plus intéressant de cette commission-là, c'est de mieux comprendre ce qui s'est passé. Et puis là, il est en train d'avoir un contre-interrogatoire. Là où... oui, on t'entend. La commission sur les libertés individuelles, les libertés civiles, a quand même fait admettre au premier ministre que selon lui, le seuil pour atteindre le degré de menace à la sécurité nationale aurait dû être plus élevé que le seuil pour le SCRS. Mais là, on comprend pas trop comment ça se fait que si le seuil du SCRS n'était pas atteint, mais qu'il aurait dû être plus élevé, que le gouvernement a quand même pu l'atteindre, c'est peut-être là où j'ai un peu saigné du nez. Mais sinon, bien honnêtement, là, on va quand même reconnaître que M. Trudeau, ce matin, à part avoir parlé en français un petit peu, fait quand même un bon témoignage et livre quand même un bon témoignage là, ce matin et qui plaît dans sa faveur.
Il a été bien briefé.
Il a pratiqué très bien. Il y a même eu un moment là de comédien. Là, t'aurais aimé ça, Benoît. Là.
Ah oui, j'ai pas vu.
Il a regardé la caméra. Silence. Vous savez, en anglais, bien sûr. Comme premier ministre, ma responsabilité est de prendre une décision. Si je ne l'avais pas prise, cette décision, qu'est-ce qui se serait passé?
C'est lourd sur ses épaules.
Est-ce que des policiers seraient morts? Est-ce qu'une grand-mère aurait été morte écrasée par un camion? Je n'en sais rien, mais j'avais les outils et on me donnait l'autorisation et moi, on recommandait de le faire. Alors, je l'ai fait.
La main sur le front. Bon, parfait. Merci, Philippe-Vincent. Tu peux t'en aller. Bonne fin de semaine. On se reparle lundi. Antoine, tu prends la relève?
Ben oui, ben écoute, moi, j'en reviens pas que des gens qui sont toujours outrés dès qu'il y a une disposition de dérogation d'utiliser pour un point de droit, tu sais, souvent c'est le sexe des anges là, tu sais,
On fait mal aux mouches.
On bascule, exactement, c'est ce que j'allais dire, mais on bascule dans un droit fondamental très rapidement là, dans le droit canadien actuellement, puis dès qu'il y a une disposition de dérogation utilisée par une province, ben là, c'est une catastrophe à Ottawa, on enfreint des droits, tu sais, et là, quand il y a une situation concrète, où on va violer des droits, évidemment, le droit à la manifestation, le droit à la libre circulation. J'ai bien regardé la loi, là. Et c'est sûr que dans le préambule, c'est écrit que c'est même si on applique cette loi-là, la Charte des droits et libertés continue de s'appliquer. Oui, mais c'est en situation d'exception. Et on sait toujours que, tu sais, dans la Charte des droits et libertés, on dit que les droits peuvent être suspendus quand il y a une situation d'exception. C'est l'article 1. Autrement dit,
mais tout le monde revendique. Tout le monde revendique cette charte-là, là. Alors, ça devient conflictuel parce que le droit de manifester, c'est le droit à la circulation, le droit à la paix.
Parce que les droits, c'est facile à invoquer comme ça. Hey, j'ai le droit de... Oui, mais ça dépend de la définition et de l'interprétation que t'en fais dans une situation concrète. Je vais te donner un exemple. En 1988, la Cour suprême décide que l'affichage unilingue français, là, c'est la loi 101, ça contrevient à la liberté d'expression. Mais là, Robert Bourassa, lui, il dit, ben, la liberté d'expression, puis j'ai entendu plein de personnes le dire, c'est plutôt comme au Chili à l'époque, est-ce qu'on pouvait dire
Pinochet
est stupide. Ouais. Ça, c'est la liberté d'expression. C'est pas la liberté d'écrire hot dog sur une affiche. Alors, tu sais, la liberté d'expression a été vraiment absolutisée par la Cour suprême. Puis là, ben, t'as à Québec un gouvernement qui a dit, ben non, là, c'est pas ça la liberté d'expression, puis on va prendre 5.
Oh, on t'a perdu, Antoine. Opal a bloqué. T'as-tu reparti ton Opal?
Est-ce que je suis de retour?
Oui, t'as mis de l'huile dans... Okay. L'essence dans le moteur, ça marche.
Non, parce que quand Opal, quand mon téléphone se met sur veille, imagine-toi donc, il me coupe.
Bon.
maudite technologie.
De marbre.
Tout ça pour dire que, c'est ça, c'est le gouvernement Bourassa a dit, la liberté d'expression, ça touche pas ça, puis je vais contester cette interprétation-là. Or, là, partout au Canada, puis là, encore aujourd'hui, ceux qui sont contre la loi 96, là, ils disent, c'est épouvantable, on enfreint des droits fondamentaux. Et là, je vais te dire quelque chose, saisir un compte de banque, là, c'est grave. Empêcher les gens de circuler, les arrêter, c'est grave. Mais nos bons libéraux fédéraux, là, et même Lametti, le ministre de la Justice qui était prêt, qui blaguait avec l'armée, puis peut-être même le nombre de tanks qu'on allait envoyer contre les manifestants. Écoute, ça, c'est grave. Ça, c'est des violations graves de droits fondamentaux. J'en reviens pas qu'ils voient juste la paille dans l'œil de leurs voisins, ils voient pas la poutre dans les leurs. Moi, c'est ça, je n'en reviens pas.
Ouais. Bon, on va conclure aujourd'hui la commission Rouleau, on va voir ce que ça donne. Antoine,
moi, je pense que c'était pas justifié. Écoute, ils ont même pas demandé une injonction. Ils auraient pu essayer... Okay. Jean Charest a mis fin à une grève ici avec une loi spéciale. Il n'a pas été obligé de faire une loi d'urgence nationale en disant qu'il y avait des dangers. Non. Moi, je pense que c'était pas justifié. On va voir ce que le juge Rouleau va dire, mais même le CRS disait que ça remplissait même pas les critères, comme l'a rappelé Philippe Vincent.
OK. Et même si ce n'est pas justifié, qu'est-ce que ça change?
Ben, c'est parce que c'était un geste politique. C'était une façon pour Justin Trudeau de dire, voilà, je suis votre premier ministre, puis je m'en charge de cette affaire-là, puis il n'y aura pas de chien-lit, comme disait De Gaulle, il n'y aura pas d'anarchie. Je combats l'anarchie, tu sais. La loi, là, elle dit pas, vous pouvez m'invoquer quand vous manquez de force policière. Elle dit, vous pouvez m'invoquer lorsque le droit est insuffisant. Est-ce que le droit est insuffisant? Ben...
Pas clair.
J'écoute la contre-interrogatoire, là, puis, tu sais, le pont ambassadeur, il avait été libéré avant l'invocation de la loi des mesures d'urgence. Mmh.
Surtout sur la compétence du capitaine de police d'Ottawa, M. Slowly. Il y a des questions à se poser là. un massacre patrimonial qui se prépare au Salon Bleu à Québec, qu'est-ce que tu veux dire?
C'est épouvantable, Benoît. Ils veulent rénover le Salon Bleu à Québec, puis je comprends. Il y a des endroits où il manque de plâtre puis de peinture. Là. Mais là, ils délirent. Écoute, ils veulent se débarrasser du mobilier d'origine qui avait été dessiné en 1886 par l'architecte du Parlement. Les pupitres! Ils disent, non, c'est pas patrimonial. Puis là, ils sont même prêts, là, Benoît, à faire un hémicycle dans le
ouais.
Parlement.
Ah, oh, ouais.
Un hémicycle. Ça fait depuis. Je veux dire, notre démocratie britannique, qu'on le veuille ou non, d'inspiration britannique, c'est deux bords qui s'affrontent. Ben oui, comme au tribunal, souvent, il y a deux bords qui s'affrontent. Et là, c'est tout ce qu'on nous sort comme argument. C'est que, ben, dans un hémicycle, les gens sont en rond, donc sont plus à même de bien s'entendre. Je m'excuse, le Parlement où on se tape le plus sa gueule dans le monde, c'est Taïwan, puis ils sont en ovale. Puis je veux te faire écouter un endroit où la tradition, justement, parlementaire et celle de l'hémicycle, c'est en France. On a un petit extrait que Charlie m'a sorti, on peut l'écouter.
La lâcheté qu'il y a dans votre attitude.
Enseignez-vous.
Je le redis. Enseignez-vous. La lâcheté.
Enseignez-vous.
Dans ce contexte, M. Hollande, il y a trois contradictions dans ce que vous avez dit. Trois contradictions.
OK, c'est bon.
La première sur la politique.
C'est bon. Mets-toi décaféiné, ça gramouille.
Dans les hémicycles, c'est vraiment pas mieux, là, Benoît.
Ça gueule, ça bug, là, c'est vrai. Tu comprends rien.
Alors qu'on a un Parlement qui est en partie d'inspiration victorienne, qui a été dessiné par un grand architecte québécois. Tout le monde est en admiration devant ce Parlement-là. Puis là, des élus vont prendre la décision. Puis c'est, parce qu'ils sont des élus, puis le législatif, il est souverain dans ses compétences et dans sa gestion interne, là. Ben, les règles du patrimoine ne s'appliquent pas, imagine-toi là.
Ah oui. Mais là, ils vont commander des bureaux de chez IKEA, qu'est-ce qu'ils vont faire?
Je sais pas, j'espère qu'ils feront pas une petite atmosphère lounge ou tu sais, s'il vous plaît.
Ben oui.
Et je n'en reviens tout simplement pas. Puis c'est un bon article de Dave Noël, mon chroniqueur Histoire dans le Devoir aujourd'hui à lire sur le fait qu'on va se débarrasser finalement de ces pupitres-là. J'espère qu'ils vont
reculer. C'est décidé.
Ben, c'est pas mal décidé. Sérieusement, il y a des appels d'offres qui ont été faits. Donc, on s'en va sérieusement vers ça. Moi, je trouve que c'est triste.
Eh ben.
On va retrouver chez les antiquaires nos beaux pupitres, le pupitre sur lequel René Lévesque a travaillé, puis honoré, Mercier. Ben, franchement, c'est fou.
Ah, ils vont se commander des Lazy Boys. Ah, regarde ça, là. Ça va être chier.
C'est ça.
Bon, Antoine, bonne fin de semaine. On va faire le suivi.
Parfait.
Ça va. OK, salut. Bonne fin de semaine.
Salut.